Fonds et je budget remercier Fonds qui m'a invité et bien sûr à corriger mon brouillon, beaucoup de rouge bien sûr, et aussi au FAP du doigt pour m'avoir fourni un refuge, un abri. C'est très bien. En ces circonstances, pour 4 semaines, comme France a dit, j'ai le congé sabbatique. Un moment. Eh bien, là, je dois lire. Mais si vous ne me comprenez pas, s'il vous plaît, n'arrêtez. La traduction française du titre se lirait comme suit. L'application des principes de la justice naturelle, en fait, c'est le droit d'être entendu aux non-citoyens, une question d'intégrité. Bonjour. Il faut d'abord dire que la question est insolente, puisqu'elle vise à piéger le gouvernement dans l'usage de ses propres mots. En effet, le gouvernement australien et je crois tous les gouvernements du monde parlent constamment de préserver l'intégrité de la nation, surtout de préserver l'intégrité du territoire. Donc, lorsque je parle d'intégrité, je fais un jeu de mots, mais il s'agit néanmoins d'un jeu de mots très sérieux, car il montre l'importance d'être clair lorsqu'on fait usage des mots. C'est exactement ce désir d'étendre une plus grande clarté qui a déclenché ma réflexion. À qui appartient ce droit à l'intégrité, à la nation ou à l'individu? Depuis les années 90, le gouvernement australien a édicté des dispositions législatives qui ont eu pour effet de diminuer l'importance du droit d'être entendu lors d'une audience aux demandeurs d'asile et en conséquence de contester les décisions administratives violant l'équité procédurale, la justice naturelle. Par exemple, la décision de Chien de l'année 1994 concernait un groupe chinois de boat people arrivés en bateau. Dans cette décision, il a été décidé qu'il n'était pas nécessaire d'accorder un droit complet d'être entendu à chacun des demandeurs d'asile. Pour régler ces cas, le processus mis en place par le gouvernement était très court. Chaque personne a été interrogée par une fonctionnaire du ministre d'Immigration dès son arrivée. Toutefois, après cette première entrevue, le demandeur n'a pas eu la chance de corriger ou d'ajouter des éléments de preuve. Aujourd'hui, la possibilité de contester la décision devant un tribunal administratif est possible et c'est le tribunal qui était en fait créé après la décision de Chien. Mais le problème est que la prochaine étape, il n'est pas possible de contester sur à cause de manque de justice naturelle. C'est-à-dire, le droit de contester la décision du tribunal violant l'équité procédurale n'existe pas. Sauf dans le plus court, mais c'est très compliqué et à mon avis, c'est cette décision qui est très importante pour établir les règles qui sont toujours courantes en Australie. C'est clair?
Je crois que oui.
Oui, c'est difficile, c'est très très compliqué. De plus, le gouvernement australien a à dicter des dispositions législatives qui donnent les pouvoirs considérables aux membres du tribunal. C'est ici, à cette étape, que je me concentre. En fait, on dit quelquefois que le tribunal est une kangaroo court, une cour de kangaroo.
Quelle est la traduction en français?
C'est le kangaroo court pour kangaroo.
Non, non, non.
Par comparaison, à la suite de la décision d'Ansing, la décision canadienne de 1985, la Cour canadienne a décidé que le droit d'être entendu selon les principes de la justice fondamentale est accordé à tout le monde et a introduit un nouveau tribunal administratif, la Commission de l'immigration et du statut du réfugié, bien sûr, ayant pour principe de base la reconnaissance de l'importance du principe selon lequel il faut établir un processus juste et équitable. À la suite de ces changements législatifs australiens, je me suis posé la question suivante. Quel est le facteur qui rend possible, ou d'autres termes, qui justifient la légitimité de ces changements juridiques. En effet, il apparaît nécessaire d'accorder une audience orale aux demandeurs d'asile, puisqu'il est fondamental de connaître tous les éléments de la preuve pour statuer correctement sur la question de savoir si un demandeur a une crainte bien fondée de persécution. Vous connaissez les éléments? Oui. En somme, l'exactitude et la précision des preuves qui peuvent être fournies lors d'une audience sont cruciales afin d'éviter le risque de non-refoulement, c'est-à-dire de renvoyer une personne sur un territoire où elle risque la persécution. Par ailleurs, il faut aussi mentionner que le but des principes de la justice naturelle ou de l'équité procédurale est justement de faciliter la participation des administrés et en l'occurrence les demandeurs d'asile durant le processus décisionnel. En tenant compte de ces éléments de réflexion, je me suis demandé si c'est l'absence de statut juridique des demandeurs d'asile sur un territoire donné, tel l'Australie, qui fonde la justification de cette décision du gouvernement australien. C'est une décision qui est faite en plusieurs méthode de diminuer l'importance du principe de la justice naturelle. En effet, les demandeuses d'asile n'ont aucun statut juridique sur le territoire. Ils n'entrent dans aucune catégorie juridique créée par le droit de l'immigration. Ils ne sont ni citoyennes, ni résidents permanents, ni visiteurs, etc. Est-ce que cette absence de statut que je regroupe sur la catégorie des non-citoyennes qui fait la différence lorsqu'il s'agit de donner ou de retirer des protections procédurales à un groupe d'administrés? C'est la question. Si l'on prend pour acquis que les principes de la justice naturelle intègrent dans le droit des principes élémentaires devant s'appliquer à tout le monde et en cela faisant partie de la catégorie des droits humains, c'est un autre jeu de mots en fait, est-il possible d'accorder des protections procédurales aux personnes qui ont un statut juridique sur un territoire ou de refuser d'accorder de telles protections à ceux et celles qui n'en ont pas? Pour répondre à cette question, j'ai procédé en quatre étapes. Et donc, la question simplement est si le statut d'une non-citoyenne est importante à cette question. Première étape. Donc, comme un jongleur, j'ai jonglé avec trois balles. Le droit de participer au processus décisionnel, le statut des non-citoyennes et le conseil d'intégrité. Premièrement, la balle intégrité a attiré mon attention pour les raisons que j'ai expliquées. J'ai remarqué la différence aussi entre les points de vue des juges canadiens et australiens sur l'octroi du droit de participer au processus décisionnel. Je me suis demandé quelles sont les raisons qui justifient la différence des points de vue entre les juges canadiens et australiens que j'ai déjà décrits. Donc, l'objet de la discussion devant les deux cours a porté sur le même conseil, en effet, mais les juges sont parvenus à un résultat très différent. Les juges australiens ont montré une très grande différence envers le point de vue du gouvernement australien. Ils étaient persuadés, pour des raisons de convenance administrative, qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux demandeuses d'asile le droit de participer au processus décisionnel. En revanche, les juges canadiens ont interprété les éléments du système juridique, les lois, les droits, comme un tout pour les unifier, il me semble, dans l'intérêt de la communauté canadienne. En effet, les juges canadiens ont interprété la loi conformément à la charte canadienne et la déclaration canadienne des droits de manière à accorder des protections procédurales aux demandeurs d'asile afin d'assurer leur participation au processus décisionnel les affectant, bien qu'ils soient des non-citoyens. J'ai été très impressionnée par l'indépendance des juges canadiens. Peut-être les lunettes rosées. À cette époque, j'étais persuadée que le résultat de la décision d'Onsing, la décision canadienne, était un exemple de ce que le philosophe Dworkin appelle l'intégrité du droit. C'est une théorie du droit qui a pour fonction d'accentuer, c'est-à-dire de rendre plus visible le rôle des juges lorsqu'ils interprètent le droit dans le but d'être juste, d'être équitable. Dworkin insiste surtout sur le rôle du juge comme agent de reconnaissance des aspirations de la communauté. Pour ces deux raisons, c'est-à-dire que selon la théorie de Dworkin, le juge rend compte des aspirations de la communauté et que, toujours selon ce théoricien, le principe de la justice naturelle est un principe substantif, J'étais persuadée que les juges australiens n'avaient pas rendu une décision correcte sur le plan des principes parce qu'ils étaient persuadés que les besoins du gouvernement devaient prévaloir sur les droits procéduraux des demandeurs d'asile. En conséquence, ils n'ont pas appliqué le principe correctement. Donc, à cette époque, j'étais persuadée que le droit de participer au processus décisionnel était d'application limitée en Australie et que ce droit pouvait ne pas être reconnu en non-citoyenne. Je pensais que le droit de participer dans le processus décisionnel était une conséquence de la citoyenneté. À partir de ce constat, ma première balle de jongle est tombée. J'ai poursuivi ma réflexion, donc en jouant avec les deux autres balles. Seconde étape. J'ai découvert que, bien que, selon Dworkin, le principe de la justice naturelle soit un principe substantif et un principe universel, il y avait donc un problème en raison de cette idée, selon laquelle le concept d'intégrité est reconnu par la communauté. Et quand on examine le principe d'intégrité de plus près, il devient clair que la communauté peut exclure les gens dans certaines circonstances. Par exemple, la communauté a le droit de décider quels sont les meilleurs intérêts et également si ces intérêts sont contraires aux intérêts des individus. De plus, les juges doivent prêter écoute à cette morale populaire. Dworkin dit les choses comme ça, la communauté peut établir le standard et la communauté peut exclure les gens s'ils ne la conviennent. En conséquence, puisque selon la théorie de Dworkin, il est possible d'exclure la participation des individus ne faisant pas partie d'une communauté donnée, il fallait conclure que ces routes théorétiques étaient sans issue. À ce stade de mes réflexions, toutes les balles avec lesquelles je jonglais le droit de participer au processus décisionnel, le statut de non-citoyen et le conseil d'intégrité sont tombés dans un grand trou. Enfin, il m'a pris plusieurs années d'écrire cet article. Troisième étape. Il me fallait sortir de cette impasse que j'avais d'ailleurs moi-même créée. Dès lors, il m'a semblé que je ne pouvais pas compter sur les théories des autres. J'ai donc retourné au principe de la justice naturelle et j'ai recommencé à jongler avec ma première balle, celle de la participation au processus décisionnel. J'ai analysé les éléments du principe de la justice naturelle relative au droit d'être entendu en faisant une revue exhaustive de la littérature. C'est cette revue qui m'a conduit à former mon propre point de vue sur la portée et les limites de ce principe. J'en suis venu à la conclusion que deux éléments fondamentaux étaient en sujet à l'idée de la participation au processus décisionnel. C'est-à-dire, la justice naturelle est à la fois une théorie de la justice du processus et une théorie substantive. Cela signifiait que le droit à la justice naturelle accorde un droit de participer au processus décisionnel afin d'en arriver à un résultat substantif, c'est-à-dire que le but du principe est de donner un résultat précis, comme un statut, une licence, un permis, des choses comme ça. Mais pour arriver à une décision finale, les droits procéduraux sont fondamentaux. Ma conclusion selon laquelle le principe de la justice naturelle comporte à la fois une composante procédurale et substantive émerge des problèmes que j'ai découverts dans le cadre de cette recherche spécifique. Mais ce qui m'importe de souligner pour les fans de ce cours est la démarche que j'ai suivie pour en arriver à cette conclusion. En effet, j'ai d'abord emprunté tous les sentiers d'une route et je suis allée jusqu'au bout de tous ces sentiers l'un après l'autre. Ce n'est que lorsque j'ai constaté que ces sentiers me conduisaient tous à une impasse, ces sentiers ne me permettaient pas de progresser dans ma réflexion, que j'ai pris une autre route. Il fallait partir à neuf. Il arrive souvent qu'on se perde lorsqu'on fait de la recherche, mais il faut avoir confiance qu'on peut retrouver son chemin. Je l'ai établi plusieurs fois, beaucoup de fois, dans ma carrière, bien sûr. Lorsqu'on se perd, il faut reprendre du début et analyser les éléments du problème sous un autre angle. Et donc, nous arrivons au quatrième étape. Et la dernière aussi. Au début de ma recherche, j'étais bien sûr inspirée par le manque de justice pour les demandeurs d'asile. C'est pour cela que j'ai lu la littérature théorique pertinente sur la justice naturelle. Je ne pouvais pas comprendre comment peut-on avoir un principe naturel et pas les droits humains. À ce propos, il est utile de souligner que même si ma recherche est une recherche de nature fondamentale ou théorique, le même principe s'applique lorsqu'on fait de la recherche empirique. Il est nécessaire de découvrir toutes les sources d'information. Ces lectures m'ont amené vers un autre point de vue, celui du théoricien Galligan, Dennis Galligan, bien sûr, il est australien. Ce théoricien à Oxford, il y a beaucoup d'Australiens à Oxford. Ce théoricien propose une théorie qui fait le lien entre l'individu et le processus décisionnel. Il parle de la justice naturelle comme un instrument de rationalité. Selon le point de vue de Galligan, l'individu est important pour le processus, non seulement pour les raisons de l'intérêt de la communauté, c'est nécessaire pour rendre une bonne décision, une décision raisonnable, une décision qui est en accord avec les principes d'une bonne administration, c'est-à-dire qui tient compte du but d'un système administratif. C'est pour cette raison la participation d'individus est importante, mais ensuite la participation d'individus est importante pour une autre raison, parce qu'il faut que l'individu puisse se défendre contre l'État. Après avoir complété l'analyse de la théorie de Galligan, j'ai comparé les points de vue de Dworkin et de Galligan afin d'expliquer les différences entre les deux auteurs et également pour expliquer mes raisons justifiant ma préférence pour le point de vue de Galligan. En résumé, la démarche intellectuelle que j'ai suivie a été la suivante. J'ai identifié ma question de recherche. J'ai analysé les éléments conceptuels sous-jacents à cette question. J'ai fait une revue de la littérature sur chacun de ces éléments pour en comprendre la portée et les limites. J'ai appliqué ces résultats à mon problème particulier. Puisque, dans un premier temps, ces résultats m'ont mené à une impasse, j'ai recommencé l'analyse en mettant l'emphase sur les conseils utiles pour faire progresser ma réflexion et en justifiant à chaque fois les raisons pour lesquelles j'acceptais les conseils des uns ou rejetais les conseils des autres. Pour conclure, le conseil de communauté pose, selon moi, un grand obstacle dans le domaine de la recherche portant sur les droits des réfugiés ou des non-citoyens. Le paradoxe de la démocratie libérale, qu'une démocratie est fondée sur les principes de la liberté, mais que cette liberté est seulement reconnue aux citoyens, est évident. Le paradoxe de la démocratie libérale. Une démocratie n'est sans les libertés pour une partie, qui ne sont pas les voteurs, bien sûr, qui ne participent dans le processus démocratique. Mais si l'on se place du point de vue des non-citoyens, quelles sont leurs libertés? Comment peut-on protéger leurs droits? En écrivant cet article, mon objectif était de découvrir une autre explication à ce paradoxe et une explication qui se situerait hors de la politique d'inclusion, exclusion, etc., et du discours des frontières et de la souveraineté. Après, je trouve que souvent est en impasse encore. J'estime que le principe de la justice naturelle, compris à la fois comme une théorie de la justice du processus et une théorie substantive, est utile pour réfléchir au-delà de ces paradoxes. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, la démarche pour arriver à cette conclusion n'a pas été simple. En effet, bien que la théorie de Dworkin offre une explication plausible, elle est incomplète. La théorie de Galligan ajoute une autre perspective, celle de l'individu et politique. C'est par la combinaison de ces deux perspectives que j'ai pu emprunter une autre route, laquelle m'a permis de sortir du paradoxe de la démocratie libérale. Merci.